Bonsoir mes frères et sœurs. M'entendez? Je suis heureux d'être venu à Aubagne. Le trajet a été très facile, très facile. J'ai pas eu de mal à venir vous accompagner. Alors, attendez, voilà. Alors nous allons ouvrir le Saint-Livre. Il n'y a rien de plus beau que d'ouvrir le Saint-Livre. On va partager quelques textes et je pense que M. Basile doit le faire, mais je vous encourage à les noter peut-être, car pour moi, il n'est pas possible que nous retenions tout, mais au moins que nous ayons le sérieux de noter ces textes pour les reprendre peut-être demain matin pour le culte personnel. Et lorsque, bien sûr, aujourd'hui j'ai prié pour cette réunion, plusieurs textes me sont venus à cœur. Le premier, c'est dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5 et au verset 11. Où il nous est demandé certaines choses, car je crois que tous les chrétiens, les vrais chrétiens, ils veulent savoir ce qu'ils ont à faire. Et il y a des choses qui sont très très bien indiquées, comme par exemple dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5 et au verset 11, il est dit, c'est pourquoi, donc suite à l'enseignement, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres. Il aurait pu redire réciproquement, mais pour ne pas réutiliser le même mot, il a utilisé une autre expression, voyez, exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Au verset 18, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Il y a dans cette fin de ce chapitre beaucoup d'enseignements sur le fait que nous devons nous édifier les uns les autres. Et j'espère que vous faites partie de ces frères et sœurs qui avaient la joie de vous faire du bien, de faire du bien aux autres. Alors pour cela, il faut que nous vivions certaines choses avec Dieu. Alors le deuxième texte, en vérité c'est le premier, qui s'est imposé à mon cœur, c'est le psaume 91. J'aimerais que nous le lisions en entier et je vous exhorte à mon tour à le méditer, car il y a des psaumes comme cela qui ne sont qu'on peut s'attribuer à condition que l'on vive la première phrase du psaume. Psaume 91, tout ce psaume est vivable pour celui qui demeure à l'abri du Très-Haut. C'est comme le psaume 23. Tout le psaume 23 n'est valable que si l'Éternel est notre berger. Donc lisons, lisons ce psaume. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion, on pourrait dire la pandémie, qui frappe en plein midi. Que 1 000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Nous gardons cette page et nous allons un peu plus loin dans un psaume où David, justement, traverse un moment difficile, comme cela nous arrive. Et regardez ce qu'il dit. C'est un psaume vraiment qui nous montre combien nous devons maîtriser nos pensées. Alors, il est dans la difficulté. Psaume 116. Mais il est dans la confiance. La preuve, c'est que ce psaume, inspiré par le Saint-Esprit, nous montre que dans la douleur, dans l'angoisse, dans la détresse, eh bien, on peut faire un acte de foi. Psaume 116, vous voyez, il dit « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Il a penché son oreille vers moi. Je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné. Les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. » Verset 7, « Mon âme retourne à ton repos. » Vous voyez, « car l'Éternel t'a fait du bien. » Et voilà, et tu as délivré mon âme de la mort, mes pieds de la chute. Voilà, il sort de cette épreuve parce qu'il ordonne à son âme de retourner à son repos. D'ailleurs, tiens, il y a un autre verset qui me vient à l'esprit. C'est dans le psaume 131. C'est dans la version La Colombe que j'aurais dû le lire. Et dans le psaume 131, n'oubliez pas que David, il est roi. Et regardez ce qu'il dit au verset 2. Cet homme qui ne... Voyez, au verset 1, il explique que malgré le fait qu'il est roi, il n'est pas trop intéressé par les trop grandes choses et les choses relevées. Il dit, loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. Et dans la version La Colombe, il est dit, j'ai imposé le calme et le silence à mon âme. Retenez bien cette parole dans La Colombe, j'ai imposé le calme et le silence à mon âme et je suis comme un enfant sevré sur le sein de sa mère. Et nous avons tous été touchés de voir un enfant qui avait pris le sein ou qui avait été le biberon et qui était là, les bras ballants sur le ventre de sa mère, sur la poitrine de sa mère et qui était dans le repos. Mes frères et sœurs, vous savez très bien tous que le diable est un voleur. Le diable est un voleur. C'est sa grande spécialité et il est beaucoup plus rusé que ce que nous pouvons imaginer. Et nous devons absolument, nous les chrétiens, nous appliquer parce que c'est quand même notre devoir de nous exhorter les uns les autres, de nous édifier les uns les autres, de nous faire du bien les uns les autres. Ma fille qui est dans une église du côté de Marseille me disait l'autre jour, « Papa, j'ai été un petit peu déçu. » À la réunion, les chrétiens se plaignaient. Les chrétiens râlaient. « Et Seigneur, pourquoi le Covid? Seigneur, fais partir ce Covid, etc. » Alors, on n'a pas jugé la prière. C'est certainement pas intelligent de juger la prière. Mais quand même, elle est révélatrice de ce que l'on pense. Et je crois que dans ces temps, difficile, mais difficile, ça ne veut pas dire impossible. C'est vrai que dans les derniers jours, les chrétiens vivront des temps difficiles, mais difficile, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être dans la victoire et qu'on ne peut pas être dans le repos. Et nous prendrions tous les textes sur le repos que nous pourrions en faire des dizaines d'études bibliques, des dizaines d'exhortations, parce que Dieu veut que nous commencions notre vie dans le repos et que nous la poursuivions dans le repos et que nous la terminions dans le repos. Quand Jésus exprime son ministère, il dit à tout le monde, il ne dit pas à quelques-uns qui sont meilleurs que les autres, je ne sais rien, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. » Mes frères et sœurs, je ne sais pas où vous en êtes. Je ne vous connais pas. Dieu, peut-être que même vous, vous ne vous connaissez pas si bien que ça. Mais une chose est certaine, nous devons vivre dans le repos. Nous avons tous des moments difficiles. On l'a lu dans le psaume. J'étais dans la détresse, j'étais dans les angoisses, j'étais dans la peur, je pleurais, etc. Mais mon âme retourne à ton repos. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le psaume 23, des millions de gens aiment le psaume 23, même des inconvertis, des chrétiens de nom, vous diront tous, oh, c'est mon psaume préféré, mais en vérité, ça ne sert à rien. Parce que si l'Éternel n'est pas notre berger, je ne marcherai pas dans les verts pâturages, il ne me conduira pas près des eaux paisibles, il ne restaurera pas mon âme, il ne me protégera pas, etc., etc. Il ne dressera pas une table en face de mes ennemis. L'Éternel sera, toutes ces choses seront pour moi, si l'Éternel est mon berger. Et mes frères et sœurs, nous avons un moment béni. Nous nous retrouvons par le biais de cette visioconférence. Nous sommes devant Dieu. J'ai écouté la prière. Seigneur, ce soir, que notre cœur soit imbibé, que notre cœur soit sensible aux choses de Dieu. Eh bien, j'espère que nous voulons reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Car c'est la volonté de Dieu qu'un chrétien repose à l'ombre du Très-Haut. Je ne sais pas où vous en êtes, je ne sais pas ce que vous traversez. Mes frères et sœurs, confinement ou pas, Covid ou pas, dernières heures de l'histoire de l'Église sur la terre ou pas, quoi que ce soit que vous viviez, quoi que ce soit que vous traversiez, Dieu veut vous donner du repos. C'est quelque chose d'incontournable. Dieu veut que vous soyez dans le repos. Et le diable, lui, il veut vous sortir de ce repos. Parce que s'il vous sort de ce repos, tout le reste est faussé. Tout le reste est faussé. Qu'est-ce que vous dites à Dieu en ce moment? Qu'est-ce que vous lui dites? Vous avez vu, David, il dit, je dis à l'Éternel, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. J'ai souvent expliqué. Très, très souvent expliqué. Pourquoi? Parce que quand on est pasteur, on se rend compte qu'il y a plusieurs sortes de chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont des chrétiens de nom, il y a des chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau, c'est-à-dire qui ne sont pas passés par la repentance et la conversion et la nouvelle naissance. Ils ont fait des expériences, ils ont juste accepté Jésus-Christ comme Dieu, mais ils ne l'ont pas accepté comme Seigneur. Et il y a des chrétiens qui, malgré le fait qu'il soit passé par la repentance et la conversion, n'arrive pas à entrer dans le repos. C'est quelque chose de dommageable, c'est quelque chose qui nous brise le cœur à nous, pasteurs. Des chrétiens, moi, il y a une dame qui m'a dit cette semaine, Monsieur Gault, ça fait 40 ans que je suis chrétienne, je ne suis jamais rentrée dans le repos. Cette semaine, vous vous rendez compte, là, ces jours-ci. Et nous le voyons. Pourquoi? Et pourtant, elle croit en Dieu, autant que vous, autant que moi. Elle croit en Dieu, elle aime la parole. Mais vous savez, il y a un gouffre entre croire en Dieu et entre se confier en Dieu. Et je voudrais ce soir que nous puissions terminer cette journée, nous endormir tout à l'heure dans le repos. Quelle grâce de vivre dans le repos. Quand David dit dans le psaume 4, justement, mais je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, me donne la sécurité dans ma demeure. C'est ça le repos. Le repos plus fort que vous, ça n'a rien à voir avec l'épreuve. Ça n'a rien à voir avec la bénédiction, ça n'a rien à voir avec la santé ou avec la maladie, avec le travail ou les vacances, ça n'a rien à voir avec la jeunesse ou la vieillesse. C'est la foi. Le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi, c'est le bon combat de la confiance. Si vous n'avez pas confiance, le combat que nous menons est un mauvais combat. Celui, n'importe qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Vous savez, je vous raconte cette expérience parce que ça m'a marqué quand même. Vous savez, quand on est pasteur, on entend souvent les chrétiens en pleine forme vous dire, Monsieur Gros, j'en ai marre. Alors, il faut réactiver votre micro. Il est activé, mon micro. Là, vous m'entendez? Alors, je reviens à mon témoignage. Souvent, on entend des chrétiennes, voilà, qui disent j'en ai marre, je veux que Dieu me reprenne, je veux aller au ciel, je veux partir, que Dieu me reprenne, j'en peux plus. On entend souvent ça. Et puis, 3 mois après, la personne nous appelle à l'hôpital, Monsieur Go, je suis à l'hôpital, venez prier pour moi. Bon, on va à l'hôpital et on prie pour la personne. Et on lui dit, mais alors on est obligé de lui dire, mais il me semble que vous m'aviez dit l'autre jour que vous vouliez partir. Ah, mais non, non, je veux vivre, je veux voir grandir mes petits-enfants, Monsieur Go, priez pour moi, je ne veux pas mourir. Bon. Et ça, c'est souvent. Et moi, franchement, je me suis posé la question et je me suis dit, si tu devais mourir, comment tu le vivrais? Et voilà que quelques mois après, vous le savez, j'ai fait un AVC bitalamique et je me suis retrouvé aux urgences et j'ai entendu, parce que j'étais dans moitié, j'avais les yeux bloqués. Et j'entendais les docteurs qui disaient, ils nous glissent entre les doigts, ils nous glissent entre les doigts, vite, vite, vite. Et moi, je vous assure, j'étais là et je disais merci Seigneur. Enfin, je ne pouvais pas parler, mais dans mon cœur, je disais Seigneur, merci. Tu me reprends, tu m'as averti. Je vous assure, j'ai compris ce que c'était le repos de la foi. J'ai compris ce que ça voulait dire. Quand il est dit, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, car Dieu nous donne la grâce dont nous avons besoin au moment où nous en avons besoin. Et la grâce que nous avons, dont nous aurons besoin le jour ou l'heure ou la minute où nous devrons partir, Dieu nous l'accordera. Il l'a dit. Il l'a dit. Que dans la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons rien à craindre, car il était avec nous. Et le repos de la foi, c'est cela, mes frères et sœurs. Pourquoi avoir peur du lendemain? Alors que notre bien-aimé Sauveur a pris le temps, il a pris le temps de nous dire, n'ayez pas peur du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. Si les pécheurs veulent rester hors de l'arche et sentir les prémices de la colère qui sont là autour de nous, c'est rien ce que l'on vit. Je vous assure, frères et sœurs, si vous avez lu ce qui se passe après l'enlèvement de l'Église, vous savez que la colère de Dieu va être quelque chose de terrible. Mais nous, les chrétiens, nous ne sommes pas destinés à la colère. Nous sommes épargnés de la colère. Nous ne connaîtrons, en vérité, que la grâce de Dieu. Même si nous avons des tribulations, même si nous avons des épreuves, mais mes frères et sœurs, nous n'allons pas comparer quand même le fait de traverser de temps en temps des tribulations. Comme Jésus l'a dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. Nous n'allons pas comparer des tribulations que nous devons traverser, parce que ça fait partie de notre perfectionnement, et la colère de Dieu qui va s'abattre sur la terre une fois qu'il n'y aura plus la grâce de Dieu. Et je crois que nous avons besoin, nous les chrétiens, même si nous ne pouvons convertir personne, nous avons besoin de nous appliquer à rendre un bon témoignage, parce que Jésus nous l'a demandé, vous serez mes témoins. Et déjà, entre nous, exhortons-nous les uns les autres, édifions-nous les uns les autres, rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Mes frères et sœurs, moi, ce soir, pas parce que Monsieur Basile me l'a demandé, j'ai la responsabilité de nourrir votre âme. Mais votre âme ne sera nourrie que si la parole de Dieu descend dans votre cœur. Il y a trop de chrétiens qui ont intellectualisé la parole. Il y a trop de chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau. Ça a énormément affaibli le royaume des cieux. Un chrétien, il ne croit pas en Dieu. Il croit en Dieu et il fait confiance. La Bible dit, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Et nous devons apprendre à avoir cette confiance. Il est digne de confiance. C'est écrit ou c'est pas écrit? Et même si c'était pas écrit, sincèrement, est-ce que ça aurait besoin d'être écrit que Dieu est digne de confiance? Bien sûr que non. Il est tout-puissant. Il a préparé les choses. Il est plein d'amour, donc il veut le faire. Il est tout-puissant, donc il peut le faire. Et il nous demande d'entrer dans son repos. Et si nous sommes dans une épreuve, je le sais, je le sais, tout le monde a des épreuves, eh bien nous devrions dire, mon âme, pardon, retourne à ton repos. Retourne à ton repos. Oui, j'ai imposé le calme et le silence à mon âme. Et nous devrions vraiment honorer le nom du Seigneur, glorifier le nom du Seigneur au travers d'un témoignage qui le glorifie. Vous vous rendez compte, quand on est là, même dans une église, Seigneur, enlève le Covid, Seigneur, enlève le Covid. Mes frères et sœurs, si Dieu permet ces choses, combien de millions de gens sont en train de réfléchir au salut de leur âme? Moi, j'ai une dame qui m'a téléphoné tout à l'heure pour me dire, Monsieur Gault, le Covid, ça a été une bénédiction parce que ça m'a ramené au Seigneur. Une catholique qui m'a appelé tout à l'heure pour me dire, Monsieur Gault, j'aime la parole. Mais vous croyez que Dieu, il s'amuse avec les choses mondiales en plus? Dieu sait quand est-ce que ça doit s'achever, si ça doit s'aggraver. Ne nous inquiétons pas. Mes frères et sœurs, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait voulu? Qui dira qu'une chose arrive dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Vous savez, mes frères et sœurs, que Dieu règne. Il règne, il gouverne, c'est ça que ça veut dire. Il gouverne dans le ciel et sur la terre. Et nous devrions avoir la joie dans les épreuves, dans la maladie, dans la santé, de rendre un bon témoignage. Oui, exhortez-vous réciproquement. Faites-vous du bien les uns les autres. Quand vous vous appelez, encouragez-vous les uns les autres. Le gouvernement, il fait ce qu'il a à faire. Il sait pas. C'est pas ça qui doit nous préoccuper. Ce qui doit nous préoccuper, c'est que l'église d'Aubagne, cette église dans laquelle Dieu vous a placé, soit vraiment cette église avec laquelle le Saint-Esprit pourra bâtir l'église de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a dit le Seigneur? Je bâtirai mon église. Il ne pourra pas la bâtir avec des ouvriers qui sont désarmés, avec des ouvriers qui sont sans armes, avec des ouvriers qui n'ont pas de courage. Un chrétien, il s'applique. Pas, il n'a pas besoin d'entendre un beau sermon. Un beau sermon, ça ne sert à rien. Et ce qu'il a besoin de dire, mais c'est vrai, je dois retourner dans le repos. Noé, ça veut dire le repos. Et Noé, Dieu a pu l'utiliser parce qu'il avait la crainte de Dieu. Et quand Dieu lui parlait, il a pris ça avec sérieux. Il a construit une arche. Est-ce que nous aussi, nous voulons continuer à bâtir l'église de Jésus-Christ en nous débarrassant de tous ces fardeaux, en nous déchargeant de tous ces fardeaux, en disant oui, je demeurerai à l'abri du Très-Haut. Vous êtes dans votre maison, vous êtes dans votre appartement, dans votre belle maison, qu'importe. Si Dieu vous a donné une belle maison, tant mieux. Si Dieu vous a donné un petit appartement, c'est bien. C'est pas ça qui est important. Vous avez vu comment votre corps est à l'abri. Oui, je sais pas s'il fait froid dehors chez vous. Nous, ce matin, il faisait moins 3. Moi, je me suis rendu compte avec mon téléphone parce que j'ai vu en ouvrant mon téléphone qu'il faisait moins 3 dehors, mais dedans, il faisait, je sais pas, 20 degrés. Quelle grâce quand notre corps est dans le confort. Mais notre âme devrait y être. Vraiment, c'est de notre responsabilité. Recevez mes instructions, a dit Jésus, et vous trouverez le repos. Et les instructions, elles sont là. Oui, il faut que le Seigneur soit mon berger. Comment je peux dire, il restaure mon âme s'il n'est pas mon berger? Comment je peux dire, tu oins d'huile ma tête? Et ma coupe déborde si le Seigneur n'est pas mon berger. Mais pour qu'il soit mon berger, il faut que je demeure à l'abri du Très-Haut. Et puis ce que je peux dire, il faut que je puisse dire oui, il est mon refuge, il est ma forteresse. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Quelle est l'idée que vous vous faites d'une forteresse? Oui, puisque c'est des mots que David utilise, que le Saint-Esprit a voulu qu'il utilise pour nous aider à comprendre ce que c'était être à l'abri. Quel mot vous mettriez à côté de la forteresse? Quel mot vous mettez à côté de il te couvrira de ses plumes. Quelle image vous avez? Vous avez vu des poussins? Tout petit, sous les ailes de la poule. C'est les images que le Seigneur Jésus a voulu utiliser. Lui-même, même Jésus, quand il dira en pleurant, Combien de fois ai-je voulu vous rassembler? Combien de fois? On ne sait pas combien de fois. Combien de fois ai-je voulu vous rassembler, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Il a dit en pleurant, parce que c'est s'il y a de quoi pleurer que d'être chrétien et de n'être jamais rentré dans le repos. Il y a de quoi pleurer, franchement. D'être chrétien et de toujours s'inquiéter. Mon frère, il te couvrira de ses plumes. Vous vous rendez compte? Tu seras à l'abri, dans la forteresse. Tu seras à l'abri. Et même si quelqu'un devait mourir du Covid. Alors, si vous appreniez dans 3 mois que je suis mort du Covid, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Franchement, que je meure du Covid, ou que je meure d'un arrêt cardiaque, ou que je meure d'un autre AVC, ou que je meure parce que mon cœur s'arrête, quelle importance? Mais bien sûr, quelle importance, puisqu'il est écrit que sur son livre, il y a des livres dans le ciel. Sur son livre sont tous inscrits les jours qui me sont destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Donc ce n'est pas la peine que je m'affole. Si je dois mourir telle date, ce n'est pas la peine, je n'allongerai pas, je ne raccourcirai pas. Si par mes inquiétudes, je pense que je peux la raccourcir. Mais mes frères et sœurs, pourquoi on est venu à cette réunion? Pourquoi vous vous êtes connectés? Bien sûr qu'il y a la communion fraternelle. Moi, je suis content de vous voir, certaines, ça m'a fait plaisir. D'entendre la voix d'une Tahitienne, ça m'a fait plaisir parce que j'ai à cœur la Polynésie, etc. Mais nous nous sommes connectés parce que nous avons besoin que Dieu nous parle. Il faut que je vive ce psaume. Oui, le Seigneur me protégera. Oui, vous allez voir la rétribution des méchants. C'est une évidence, c'est une réalité. Les choses vont s'aggraver. Moi, je vous demande de même pas prier pour que ça s'arrange. Tout va empirer. La colère de Dieu vient sur la terre. Donc, nous restons dans l'arche, comme Noé. Et nous, notre arche, c'est le calvaire. C'est la croix. C'est pour ça que Dieu nous demande, chaque jour, de porter notre croix. Ça veut dire de mourir à nous-mêmes, que ce ne soit pas nos pensées qui nous gouvernent, que ce ne soit pas nos sentiments qui nous gouvernent, que ce ne soit pas nos émotions qui nous gouvernent, ou notre volonté. Parce que j'aimerais savoir ce que chaque chrétien pense lorsqu'il dit, Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ce soir, réfléchissez-y avant de vous endormir. Qu'est-ce que je dis à Dieu? À quoi je pense? À quoi il pense lorsque je lui dis que ta volonté soit faite. La volonté de Dieu, c'est que nous entrions tous dans le repos. Vous vous rendez compte, David? Il est roi d'Israël et il dit, mais moi, je ne m'occupe pas de choses trop grandes ou trop élevées. Il était, bien sûr qu'il était roi, il fallait qu'il s'occupe de l'armée, de la gestion des routes, etc. Comme c'est normal. Mais il disait, moi, j'ai imposé le calme et le silence à mon âme. Et je suis comme un enfant sevré. Je ne sais pas où vous en êtes, mais moi je peux vous dire que quand M. Basile m'a téléphoné, cette prédication s'est imposée à mon cœur. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je ne sais pas si vous êtes impressionné par les comités scientifiques ou par les présentateurs TV ou par le ministre de la Santé. Moi, je suis impressionné par les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Moi, je suis impressionné par, voilà, celui qui a écrit ce livre, le grand Dieu du ciel qui nous a laissé ce livre pour que nous soyons pleins d'espérance, car bientôt, nous allons être dans la cité céleste. Ce matin, je relisais l'Apocalypse. Est-ce que vous vous rendez compte la grâce que Dieu nous a faite de nous dire qu'il va y avoir des nouveaux cieux, une nouvelle terre, que nous allons être dans une ville, pour certains seront dans la ville, d'autres à l'extérieur, une ville de 2 200 km de haut, tout en or. Comment comprendre cette grandeur? Pourquoi Dieu a voulu que nous sachions cela? Pour montrer que Dieu est grand. Mes frères et sœurs, si Dieu est votre Père, vous avez le droit de vous approprier chacune de ses promesses. Oui, tu es mon refuge. Oui, moi, je serai à l'abri, à l'intérieur de l'arche. Je sais que la colère vient. Je sais que le déluge vient. Mais moi, je ne resterai pas sur la terre. Je serai à l'abri. Mes frères et sœurs, vous vous rendez compte, il ordonnera à ses anges de te garder. Vous le savez combien de fois les anges vous ont gardé? Est-ce que vous le savez? Combien de fois les anges vous ont protégé? En voiture, je me souviens de ce chrétien qui me disait: Ah, oh, monsieur Go, moi j'achète une BMW, maintenant je risque rien avec ma grosse bagnole. Frères et sœurs, quelle bêtise, que c'est ridicule. Que vous soyez dans une petite voiture, vous êtes tant mieux si vous avez une grosse voiture, mais c'est Dieu qui vous garde. Ce n'est pas parce que vous avez une grosse voiture que vous êtes à l'abri d'un accident de voiture. Mais voyez combien les chrétiens sont ridicules. Mes frères et sœurs, nous avons un grand Dieu qui nous demande d'entrer dans son repos. C'est un commandement. Empressons-nous d'entrer dans ce repos. Et si vous êtes chrétien, votre devoir, parce qu'il y a des devoirs, il n'y a pas que des droits, il y a des devoirs. Votre devoir, c'est de retourner à ce repos. Si vous n'y êtes jamais rentré, ou s'il y a tellement de temps que vous n'y êtes pas rentré, eh bien, entrez-y. Appliquez-vous. Prenez tous les textes sur le repos et commencez à vous réapproprier cette grâce de Dieu. Dans, je le répète, dans l'épreuve. Vous avez vu le psaume? Il est là, les angoisses, les liens de la mort. Puis, il a dit non, stop. Et voilà, et tu m'as délivré, et tu m'as délivré des angoisses. C'est normal d'avoir des angoisses. Même l'apôtre Paul a eu des angoisses. Mais ça ne durait pas longtemps, parce qu'il connaissait ce Dieu qui délivre des angoisses. Mes frères et sœurs, entrez dans le repos. Ces réunions n'ont aucun sens si nous ne sommes pas les enfants de Dieu qu'il veut que nous soyons. Ces réunions n'ont aucun sens si nous devenons des religieux. Spirituel à l'église, spirituel dans ces réunions de visioconférence, et puis dès que nous avons raccroché, que nous sommes en train de nous inquiéter ou de revenir comme des païens. Nous ne devons pas marcher comme les païens. Mes frères et sœurs, notre Dieu est tout-puissant. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Que Dieu nous accorde cette grâce pendant ce moment de prière, d'être des instruments de bénédiction. Tout à l'heure, il y a un monsieur qui m'a téléphoné de Belgique. Il m'a dit, Monsieur Go, ça fait 30 ans que j'étais esclave. En écoutant la parole de Dieu, j'ai été délivré. Tout à l'heure, là, début d'après-midi, j'ai été délivré en écoutant la parole de Dieu. Je me rends compte combien j'ai manqué de repos. Il ne m'a pas dit ce mot, mais il m'a fait de grâce. Frères et sœurs, Dieu est un Dieu de délivrance. Dieu est un Dieu de confiance. Oui, regardez, on termine avec ce psaume. Je l'ai cité tout à l'heure, mais j'ai à cœur de vous le lire. C'est dans le psaume 9, si je me trompe. Oui, regardez bien, c'est le psaume 9, verset 11. Il indique ce que c'est que de connaître Dieu. Regardez bien s'il est beau ce verset. Vraiment, il est beau. Psaume 9, verset 11. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Il n'est pas dit que ceux qui connaissent ton nom croient en toi. Il se confie en toi. Quelqu'un qui connaît Dieu, il ne peut pas faire autrement de se confier en Dieu, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Il faut chercher la présence du Seigneur, pas chercher la bénédiction. On va prier là. Je ne sais pas pourquoi vous allez prier. Il y a des besoins. Il faut prier les uns pour les autres. Moi, voyez, moi j'ai un sujet de prière. Moi, je vous demande de prier pour que des ouvriers se lèvent. Parce que Jésus a dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans son moisson. Et dans cette fédération que nous avons mise en place, je peux vous dire qu'il va falloir des ouvriers, des hommes de Dieu qui vont parler à l'Église, qui vont parler de la part du Saint-Esprit à l'Église. Vous voyez, ça, c'est un sujet de prière. Les bobos, vous en occupez pas, Jésus l'a bien dit. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné. On voit bien que Dieu, il veut vous le donner, tout le reste. Ne demandez pas le reste. Demandez que sa volonté soit faite dans votre vie. Voilà, je vais prier et laisser la place à M. Basile. Seigneur notre Dieu, tu as dit lorsque tu étais sur la terre, Seigneur Jésus, que tu nous avais tout annoncé à l'avance. Tout. Et nous le croyons, Seigneur, que tout ce que nous avions besoin de savoir, tu nous l'as dit. Merci, Seigneur. Les quelques versets que nous avons lus nous prouvent combien un homme peut passer de l'angoisse au repos, des pleurs au repos, de la détresse au repos. Combien nous voulons te demander pardon, Seigneur, pour toutes les fois où notre témoignage, où notre état d'esprit nous a empêchés d'exhorter les autres, d'édifier les autres, ou de rendre grâce. Seigneur Jésus, que nos églises, que ta maison soit remplie d'hommes et de femmes qui sont comme des enfants sevrés sur le sein de leur mère. Oui, Seigneur, tu es notre refuge, notre forteresse. Nous sommes à l'abri sous tes ailes. Nous regarderons tout ce qui arrivera. Comme Noé à l'intérieur de l'arche qui voyait ce qui se passait, nous voulons rester à l'abri du Très-Haut. Que ton nom soit béni, Seigneur. Et que nos cœurs, nos foyers, nos maisons, déjà dans nos maisons, dans le couple, avec les enfants, nous puissions faire du bien et être les témoins que tu veux que nous soyons. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.